Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous écoutez Au fil des pages. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Libertaire. Alors nous commençons comme d'habitude par un petit peu de musique. Et là nous allons passer un morceau de musique classique pour nous évader. Il y a 15 jours c'était Frédéric Chopin, aujourd'hui c'est Franz Liszt. Au bord d'une source interprétée par Tanguy de Villancourt. Merci Frédéric. On va peut-être commencer par des annonces. Frédéric, tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va avoir dans le courant du mois de novembre ?
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'annonces d'ailleurs. La semaine antimilitariste qui aura lieu à les librairies Publico, qui a commencé déjà le mercredi 8 novembre. Ce soir, Choisir 20 ans, projection débat, réalisé par Willy Herman, écrit par Eve Martin, Algérie, Suisse, 2017. 100-300 jeunes français refusèrent de partir à la guerre d'Algérie, certains se réfugièrent ensuite. Ce film aborde leur parcours. Bien sûr, il y aura d'autres animations à la librairie Publico. Et donc, vous pourrez avoir toutes les informations sur librairie-publico.info pour avoir le détail de cette semaine antimilitariste, donc le vendredi 11 novembre, bien sûr en point d'orgue avec plusieurs animations, le samedi 12 novembre, le dimanche 13 novembre, le mardi 15 novembre. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro Oberkampf ou Fille du Calvaire. Pour le groupe, à l'initiative du groupe Commune de Paris, Projection Débat, je vais prendre plutôt dans l'ordre chronologique, le mercredi 16 novembre 2022 à 20h, librairie Publico, les causeries de la commune vous proposent actualité de la situation sociale en Iran avec Nader Taïf, femme, vie, liberté, c'est à partir de 20h, librairie Publico, hein, 145 rue Amelot. Et donc aussi, une autre date, toujours à l'initiative du groupe Commune de Paris, projection débat le samedi 19 novembre à 18h à la librairie Publico, encerclé au Chiapas, un village japatiste séquestré. Film photographique, voilà, réalisé par Juliette Martinez et Antoine Dibon. Donc, vous retrouverez ça aussi sur notre blog, overblog.com, Commune de Paris, Fédération anarchiste. Vous pourrez retrouver les différents détails. Je repasse maintenant le micro à Francis, qui est là.
Merci. Alors, donc, au programme de cette émission qui est assez copieuse, tout d'abord, deux livres pour alimenter le débat. Paul Rocher, Que fait la police et comment s'en passer, aux éditions de La Fabrique. Un livre de Lionel Astruc, L'art de la fausse générosité, chez Actes Sud Babel, 2022, là aussi, publication. Ensuite, une rencontre avec l'association 4ACG, pour parler de leurs actions et de leurs livres « Guerre d'Algérie, guerre d'indépendance ». C'est un recueil de témoignages très, très riche, très nourri. Ensuite, un moment d'histoire avec la présentation d'un petit livre « Justice » d'un dénommé Pierre-Frédéric Borgella. Vous verrez les éditions « Le bas du pavé ». Et puis, un roman, ce que j'appelle un roman de la vie, de Gwenaël Bulto, La République des faibles. C'est Frédéric qui va nous présenter ce roman qui lui a bien plu. Et si nous avons le temps, nous parlerons des Gueules Noires, un livre d'Émile Morel, édité par À Propos, les éditions d'À Propos. Alors, pour ouvrir le débat... Un livre au titre provocateur, mais Marie, elle aime bien la provo. Alors, un livre de Paul Rocher, Que fait la police et comment s'en passer ? Alors, comment s'en passer ? Alors, Marie, qu'en est-il ?
Alors, donc, il est paru en septembre 2022, aux éditions La Fabrique, et écrit par l'économiste de Sciences Po Paris, Paul Rocher. Donc, cet ouvrage offre au lecteur une perspective intéressante sur le rôle que joue la police dans le maintien de l'ordre, bien évidemment, son rôle indissociable à celui de l'État, son lien avec le capitalisme et l'État moderne, et bien sûr, ses différentes alternatives. Donc, le contenu de ce livre met en exergue une forme de continuité vis-à-vis de tous les ouvrages engagés déjà parus antérieurement au sujet de la police. Je fais notamment allusion au travail de Maurice Rachfuss.
dont nous avons parlé ici il n'y a pas très longtemps.
Voilà. Donc notamment en ce qui concerne l'emprise policière et donc les violences, dans ce contexte d'ailleurs où l'image de l'institution policière est de plus en plus dégradée, et pour cause de nombreux débordements qui s'opèrent de la part des agents de police, souvent mal formés et inexpérimentés, qui font face à des moyens assez pauvres, des moyens matériels assez pauvres et qui ont fortement tendance, comme nous l'avons bien vu et entendu au cours de ces derniers mois, à faire de la légitime défense une arme fatale lors des refus d'obtempérer. Donc, Paul Rocher démontre bien, en fait, que cette emprise policière, qui s'accroît de plus en plus au fil des années, est surdimensionnée face à une délinquance qui, malgré tout, reste relativement stable au cours de ces 30 dernières années, elle n'a pas augmenté tant que ça, la violence. Il est également souligné le problème de la neutralité de l'institution policière qui, depuis le 19e siècle, contrôle et réprime les classes les plus défavorisées socialement. Et oui, cette fameuse phrase si bien connue et reprise par tant d'historiens, classe laborieuse, classe dangereuse, donc qui s'inscrit dans le contexte d'une économie capitaliste qui exige en fait la discipline au travail. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle hein, qu'il y a vraiment un métier de policier qui existe. Hein. Avant, les policiers n'étaient pas proprement parlé des professionnels. Hein. Donc, au-delà du fait que la police n'est pas neutre vis-à-vis du système politique en place, l'auteur souligne aussi que donc, la police façonne en son sein toutes sortes de comportements déviants, donc à savoir la violence, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Et c'est dans son essence, en fait, c'est structurel, en fait, hein, d'où son intérêt d'ailleurs à recruter des profils autoritaires hein, qui obéissent au doigt et à l'œil, à la hiérarchie cadrée et militarisée. Pardon. Le manque de moyens est une des principales causes de la hausse des violences policières. Hein. Cependant, plusieurs études statistiques démontrent que les dépenses de l'État dédiées spécifiquement à la police font l'objet d'une augmentation continue entre 1995 et 2019. On ne peut hélas pas en dire autant si on compare avec le budget dédié à l'éducation et à l'enseignement. Donc nous pouvons déduire sans exagération hein, que la police est une réelle priorité politique, et ce, quelle que soit la tendance hein, d'ailleurs. Hein. Donc parmi les nombreux problèmes structurels relevés dans cet ouvrage, celui du racisme et des discriminations aux faciès, hein, entre autres, a de quoi nous inquiéter hein, toujours davantage, car comme il est si bien écrit aux pages 72 et 73, en 2019, c'est le défenseur des droits qui soulignait l'existence d'une discrimination systémique donnant lieu à la surreprésentation de certaines populations issues de l'immigration et de pratiques dérogatoires dans la mise en œuvre des contrôles d'identité par les forces de l'ordre.
Je rappelle que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui est reconnue par la Constitution et qui donc s'exprime et sur toutes les atteintes aux libertés, notamment, et pour défendre les intérêts et les droits des administrés face à l'administration.
Voilà, donc ça aussi, c'est important de le souligner. Et donc, dans la dernière partie du livre, Paul Rocher soutient que nous pourrions nous passer de la police et qu'une autre façon d'assurer la sûreté dans notre société est possible. Cette thèse hein, que porte l'auteur et qui sert d'ailleurs de sous-titre hein, au livre s'appuie sur deux exemples. Il y a l'Irlande du Nord et l'Afrique du Sud. Rocher montre hein, que dans les deux cas, d'autres formes comme les comités de rue se sont structurées contre des formes d'institutions racistes ou ségrégationnistes. Donc voilà. Les alternatives à la police sont tout à fait possibles.
Donc, à lire, alors c'est un livre, on rappelle le titre, l'éditeur et l'année.
Que fait la police et comment s'en passer, aux éditions La Fabrique, par Paul Rocher, et donc paru en septembre 2022.
Et je suis encore passé cet après-midi chez Publico, et j'en ai vu quelques exemplaires, donc on peut aller acheter ce livre, le commander. Donc, voilà. Un livre. Deuxième livre pour... Alors, ce sont des livres pour ouvrir le débat, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas pour fermer. Un autre livre qui est intéressant, c'est le livre de Lionel Astruc sur Bill Gates. L'art de la fausse générosité. Bill Gates, quel brave homme. Parti de peu, il bâtit un empire colossal de fric, de divers monopoles dans le monde de l'informatique, avec une image de dilettante vaguement en marge de la société. Et puis au sommet de sa gloire, il se retire avec son épouse Melinda. Il fonde la fondation Bill et Melinda Gates. Il va se consacrer rien de moins qu'à l'amélioration de la vie du monde. Et à la lecture du livre de Lionel Astruc, L'art de la fausse générosité, paru chez Actes Sud récemment, j'avais l'impression de lire un de ces films de James Bond. Vous savez, lorsque celui-ci est prisonnier, dialogue avec des fous dirigeants des empires souterrains qui veulent posséder le monde. Ben, c'est un peu ça, et c'est assez étonnant. Et, en fait, comme le dit Astruc, en 2000, cet emblème de la réussite, du génie informatique et de l'accumulation de richesses se transforme soudain en l'homme le plus généreux du monde, lorsqu'il crée sa fondation. En vérité, il a il a réussi à créer en quelque sorte un monopole. Vous achetez un ordinateur, vous avez Microsoft. Résultat, sa puissance financière atteindrait les 90 milliards de dollars en 2018. Il est personnellement plus riche que 42 des 48 États de l'Afrique subsaharienne. Et en 2008, il consacre à sa fondation quelques millions en privilégiant des solutions technologiques plutôt que sociales, économiques ou politiques. Et il va, par exemple, préconiser des techniques qui aboutissent à la destruction de biotopes fragiles, comme le soulignent certains défenseurs de l'environnement, tant en Afrique qu'en Inde. Et finalement, il arrive, par sa puissance financière, à maîtriser, à abreuver des organisations non gouvernementales, voire des institutions internationales, et donc à imposer des programmes de santé publique, par exemple, sur les problématiques qui intéressent le plus les riches bailleurs de fonds. Et comme l'écrit le New York Times, peu de personnes osent cependant critiquer publiquement sa fondation, et bien tout simplement par peur de perdre son soutien. L'ouvrage est très précis, très argumenté, donne vraiment de nombreux éléments pour réfléchir sur le poids de Bill Gates et donc sa manière de manier l'art de la fausse générosité. Lionel Astruc, aux éditions Actes Sud, Babel 2022. Et comme j'ai beaucoup parlé de James Bond, eh bien Frédéric Goldfinger.
A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel.
Deuxième temps de notre émission, la rencontre avec l'association 4ACG. Alors, nous avons dans le studio deux représentants de cette association et un de leurs adhérents va nous rejoindre par téléphone. Alors, tout d'abord, qui êtes-vous, messieurs ?
Alors, René Moreau
et
Gérard Lechantre.
Donc, vous êtes tous les deux de l'association 4ACG. Alors, nous nous sommes rencontrés lors du Salon du Livre du Maghreb en mai dernier. Et au milieu d'un nombre important de stands consacrés aux livres, aux éditeurs, à certains écrivains, dont Dominique Michalef, que nous avons reçu avec plaisir ici, il y avait votre association. Alors, j'ai fait exprès de dire 4ACG, mais qu'est-ce que ça veut dire 4ACG ?
Alors, c'est le raccourcissement de AAAACG, c'est-à-dire c'était un peu difficile à prononcer, donc on a transformé les premiers adhérents ont transformé en 4 CG, c'était plus facile.
C'est-à-dire ?
Donc, anciens appelés, en Algérie, et leurs amis, le 4e EA, contre la guerre.
Alors, les anciens d'Algérie, c'est souvent connoté. Or, la 4ACG s'affiche d'emblée comme progressiste, et quand je lis la brochure, enfin la plaquette, l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 figure. Alors, qu'est-ce qui va distinguer, et pourquoi vous n'êtes pas les anciens combattants, mais les anciens appelés ?
Alors, dans nos documents de présentation, nous avons énuméré des valeurs succinctement. Je me propose de les lire.
C'est peut-être un petit peu compliqué. Attendez.
Oui.
Ce qui est important, c'est quoi elles sont là.
Ah, voilà, d'accord. Hein, les objectifs, voilà. Les valeurs, hein. Donc, alors, l'association se déclare particulièrement attachée au respect des droits de l'homme. En particulier à l'application des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la reconnaissance de l'appartenance à une commune famille de tous les hommes, lesquels doivent exercer, en vue d'un monde plus juste, un mutuel devoir de solidarité et de fraternité.
Alors, vous avez donc des valeurs fortes de fraternité, c'est important ça. Et en plus, le risque, entre guillemets, avec les associations d'anciens combattants, et je me rappelle de mon grand-père, c'est d'être tourné vers le passé. Et on en parlait avant que démarre l'émission, tous les ans, quand il était vivant, tous les ans, on avait droit à ses souvenirs de Verdun. Or, vous, c'est le contraire. Vous financez vous êtes porté vers l'avenir, et par exemple, vous financez des opérations de développement dans des villages de Kabylie. Vous expliquez comment ça se passe ?
Oui, nous reversons les pensions à l'association, le montant de nos pensions, qui permettent un budget d'environ 80 000 euros par an. Et en 18 ans d'existence, nous avons ainsi reversé plus d'un million d'euros. Et on continue de le faire. Nous ne voulons pas de cet argent pour nous. Nous voulons qu'ils servent à la paix. C'est le slogan qui résume notre...
Voilà. Mais alors, ça veut dire que vous avez créé une association qui... Alors, cette association, elle est financée par les cotisations des adhérents, ce qui est assez classique, mais ces cotisations, c'est le montant de vos pensions d'anciens combattants, statutairement.
Exactement.
Et c'est reversé à l'assoce. Mais pourquoi vous ne le gardez pas pour vous ?
Parce que nous estimons que cet argent... Au départ, nous avons considéré que cet argent était sale, taché de sang. Mmh. Et nous n'en voulions pas pour nous. Nous voulions qu'il serve la paix. Et nous aidons les associations, une vingtaine d'associations en Algérie, plusieurs en Palestine, une ou deux au Maroc. Enfin, tout...
Alors, comment choisissez-vous les actions que vous soutenez ? C'est un peu au hasard ? C'est sur la base de projets ?
Il y a des projets qui sont soumis à la commission projet et qui sont examinés très soigneusement. Et voilà, en fonction de ça, lors de l'Assemblée Générale, on vote les subventions aux associations qui ont présenté des budgets, des dossiers sérieux.
Alors, sans vous, comme ça, là, est-ce qu'il y aurait un projet qui, dans un village de Kabylie, dont vous pourriez nous parler un peu comme ça ? Non ?
Peut-être, on parlait le village de Tazla.
Oui, j'ai vu, oui.
Oui, le village de Tazla a été reconstruit. Effectivement, au soutien de la 4ACG. Mais il y en a eu plein d'autres, notamment une association...
Reconstruit.
Oui,
pourquoi il a été détruit ?
Pourquoi avait été brûlé au napalm pendant la guerre.
La
guerre d'Algérie, bien sûr. Ah. Et les villageois avaient été... faisait partie de ceux qui ont été renvoyés dans les camps de rassemblement.
Oui, qui étaient dans la plaine.
Voilà. Et donc, à leur retour, ils ont trouvé leur village détruit. Et ils se sont mis à leur construire. Et bon, comme un de nos... un ami qui a créé l'association avait fait son service dans ce coin-là, et bien, tout naturellement, l'association est venue en aide au village.
D'accord. Voilà. Donc là, des actions concrètes, pratiques. Peut-être que malheureusement, la période de la Covid, là, le confinement, ça nous a un petit peu conduit à reporter les actions dans le temps, non ? Il y a des choses comme ça, vous avez les...
Oui, évidemment, les actions sur le terrain, bon, n'ont plus été possibles. Mmh. Nos voyages que nous avons mis en place depuis 10 ans maintenant... bon, sont arrêtés parce que nous n'avons plus les autorisations nécessaires pour aller visiter nos amis algériens.
Et oui, c'est ça aussi, hein, cette possibilité de...
Et c'est toujours le cas actuellement ou ça
oui,
commence
nous pensons reprendre les voyages bon, au cours du printemps. Quoi.
D'accord, d'accord, très bien.
Mais alors, nous continuons à verser les subventions chaque fois que c'est possible.
D'accord. Alors, nous savons bien que le nombre d'adhérents d'une association n'est pas significatif de son poids effectif en termes d'action, d'autant que vous avez tout de même une présidente d'honneur qui porte le nom de son mari. Vous nous rappelez un petit peu qui était son mari et quelles étaient leurs valeurs ?
Oui, alors nous avions une présidente d'honneur, puisque malheureusement elle est décédée. Mais
alors,
on se souvient encore, c'était donc l'épouse du général de Bollardière, le seul général de l'armée française qui a refusé la torture et qui, a été victime de sanctions, 2 mois de forteresse, et puis à la fin, il a été limogé de l'armée et il a d'ailleurs. Pour y contacter le fondateur de l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Oui.
Et puis, après, il a carrément démis de l'armée.
Démissionné.
Il est devenu pacifiste contre les essais nucléaires. Et de son épouse, qui est devenue donc présidente d'honneur, nous retenons notamment les belles maximes comme... elle nous répétait souvent, et dans les témoignages dans les lycées et les collèges, « Méfiez-vous de l'obéissance ». Ou bien encore, une variante, « Désobéir est parfois un devoir ».
C'est plutôt sympathique sur Radio Libertaire d'entendre ça, hein Fred hein bon. Et oui, tout à fait, « Méfiez-vous de l'obéissance ». Et oui, « Désobéir est parfois un devoir », effectivement. Alors, vous êtes nombreux, combien d'adhérents, comment êtes-vous organisé ?
Alors, nous sommes environ 400, en comptant les amis. En ce qui concerne les anciens appelés, nous sommes évidemment un peu de moins en moins nombreux, mais nous sommes encore quand même 160 environ. Tous les amis, c'est la différence, en tout 400.
Alors, quoi. Donc, il y a les anciens appelés, comme vous, hein, René,
oui,
Gérard.
Oui, qui ont participé à la guerre d'Algérie.
Vous y étiez, voilà. Et puis, et Gérard va nous faire part de son témoignage dans un instant. Et puis, il y a des amis, c'est-à-dire des enfants, des amis, des femmes, qui sont répartis. Alors, tout ce monde-là est réparti beaucoup dans l'ouest de la France, en Occitanie, je crois.
Oui, on a principalement les régions d'Occitanie, tout l'ouest de la France, les pays de la Loire, la Bretagne, et puis l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi est très dynamique. Avec davantage d'adhérents que dans certains endroits de la France. Mais le PACA également est pas nul, bien sûr. Il y a beaucoup de gens aussi.
D'accord. Voilà. Alors, si nous avons fait cette émission en novembre 2022, c'est parce que... Je suis déjà l'année prochaine, moi. C'est parce que le mois de novembre, il s'est passé quelque chose. Début novembre, c'était la Toussaint, comme souvent d'ailleurs, et ça a chauffé. Ça a été le début. Comment vous l'avez ressenti ? Vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose ou pas ?
À l'époque.
Ouais, à l'époque.
Oui, enfin, on voyait bien qu'il y avait un problème, que quand on pensait que les Algériens avaient participé aux deux guerres mondiales en fournissant, en donnant leur vie, donc ça nous semblait logique qu'il y ait quelque chose, qu'ils aient une envie d'indépendance. Mais sur le moment, ce qui nous en était reporté dans les médias était assez... n'était pas fidèle à ce qui se passait, peut-être.
D'accord. Alors, nous avons... Frédéric, est-ce que tu peux nous passer... C'est Romano qui est en ligne ?
D'accord.
Allô ?
Oui.
Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, Romano. Alors, donc, Romano, lui, vous faites partie des amis des appelés, là. Alors, dites-nous un petit peu, on a échangé, évidemment, avant l'émission, mais moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, quand on a une cinquantaine d'années, pourquoi est-ce qu'on va adhérer à cette association ? Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Ce qui m'a motivé, c'est que j'étais en pleine réflexion sur l'héritage que j'avais moi-même reçu.
Eh oui. Allô ? Fred, ça a coupé.
Le réseau.
Bon. Alors, on va reprendre. On va reprendre. Il rappelle, c'est tout le problème du direct, ça, mais c'est toute la joie du direct.
Vous m'excuserez, je suis à la campagne.
Allô ?
Oui, vous m'excuserez, je suis à la campagne.
D'accord, à la campagne, oui.
Voilà, au fin fond du Tarn, et j'ai pas beaucoup de réseau, donc vous m'excuserez.
D'accord. Alors donc,
ce que je vous disais, c'est que moi j'ai eu un père qui est rentré marqué de la guerre d'Algérie. Ma grand-mère en douce nous racontait que mon père est resté enfermé plusieurs semaines suite à son retour d'Algérie et il ne parlait pas. Enfant, j'ai été témoin d'un père, j'ai vécu avec un père qui était victime de crises d'angoisse et qui tombait dans des grandes périodes de mutisme. Quand il était dans cet état-là, on disait papa a fait l'Algérie et ces mots suffisaient. Et quand j'ai eu 40 ans, tout d'un coup, je me suis dit que c'était pas possible que je vive avec cette formule papa a fait l'Algérie, alors qu'il manquait un mot dans cette formule, c'est papa a fait la guerre d'Algérie. Et je me suis rendu compte à l'âge de 40 ans que je n'avais rien appris à l'école sur la guerre d'Algérie et que dans la famille, c'était un tabou. À partir de là, j'ai eu envie donc de creuser, j'ai commencé à mener une enquête. Et un jour, j'ai rencontré un adhérent de la 4ACG qui m'a invité à l'Assemblée Générale de l'association. Et là, j'ai découvert des hommes qui, eux, pouvaient mettre des mots sur la guerre d'Algérie, prenaient la parole pour s'exprimer et décrire la guerre d'Algérie. Et donc, quand ils prenaient la parole, ils décrivaient notamment un remords, celui d'avoir été contraint d'obéir à des ordres souvent indignes, visant à soumettre un peuple qui réclamait son indépendance. Et que d'avoir été contraint d'obéir à ces ordres-là, les a poursuivis toute leur vie. Et ces hommes-là m'ont dit que c'était en refusant d'être indemnisé pour la guerre d'Algérie, c'est-à-dire de refuser de toucher la retraite du combattant, j'ai compris qu'en refusant de toucher cet argent-là, tout d'un coup, ça débloquait la parole, et que tout d'un coup, ces hommes se réparaient d'un remords qu'ils avaient poursuivi toute leur vie. Ces hommes m'ont bouleversé, j'ai eu envie de faire un film autour de cette rencontre entre eux et moi, et voilà pourquoi je suis devenu ami avec l'association La 4ACG.
Alors donc, vous faites vous avez fait ce film.
Oui.
Vous êtes présent dans les activités de l'association. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on n'a pas vécu la guerre d'Algérie ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Quand on n'a pas vécu la guerre d'Algérie, moi je l'ai pas vécu la guerre d'Algérie. Mmh. Ce que je pense important, c'est que cette guerre, elle nous enseigne beaucoup sur notre société d'aujourd'hui, sur le climat politique dans lequel nous vivons, sur la 5e République, qui est la République qui est née de la guerre d'Algérie et dans laquelle nous évoluons. Et je pense que s'intéresser à la guerre d'Algérie, c'est mieux comprendre notamment le vote Front National, le Rassemblement National qui est très fort aujourd'hui, par exemple.
Mmh. Est-ce que vous avez vu, puisque vous avez fait un film, est-ce que vous avez vu le film Les Harkis ?
Oui.
Alors qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'en ai pensé beaucoup de bien parce que je trouve que Philippe Faucon, le réalisateur, présente le fait historique tel une épure. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pollué par des intrigues sentimentales, psychologiques, etc. parallèles. C'est le récit pur du drame des Harkis à l'intérieur de l'armée française qui est décrite. Et je trouve en ça qu'il y a une forme d'assaise dans le film qui est vachement intéressante. Ça, c'est mon point de vue du réalisateur. Voilà.
D'accord, très bien. Bon, et alors, donc, votre film-là, on peut le voir? Comment peut-on faire?
Alors, il a été diffusé deux fois sur France 3, au Auvergne-Rhône-Alpes, et une fois sur Paris de France, France 3 toujours. Aujourd'hui, il a une petite vie en salle, et il sera présenté dans deux festivals, l'un à Clermont-Ferrand, le 30 novembre, dans le cadre du festival Trace de Vie, qui est un beau festival, donc je suis vachement content. Et un deuxième festival à Marseille, qui s'appelle le Festival Primed, et ça sera le 7 décembre à 15h, à la mairie du 1er arrondissement de Marseille.
À Marseille, donc Clermont-Ferrand, Marseille.
Et Marseille, voilà, bon. Pour ceux qui veulent le voir. Ça s'appelle Ce que la guerre a fait de nous, et ça dure 52 minutes.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci.
C'est moi qui vous remercie.
On va passer la parole maintenant à Gérard, qui va nous faire part de son témoignage sur ce qu'il a vécu de la guerre, de cette guerre. En tout cas, merci de nous avoir rejoints par téléphone. Allez, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Alors, Gérard, la guerre d'Algérie. Alors, vous êtes parti quand? T'es parti quand?
Alors, mon séjour en Algérie n'a été pour moi et tous ceux qui sont aujourd'hui mes frères, le peuple algérien, que douleur. Les blessures pour moi et pour eux ne sont pas encore totalement cicatrisées. Et l'horreur ne s'oublie pas. Alors voici mon témoignage. Je suis arrivé en Algérie, au sud constantinois, en novembre 1958, après avoir été instructeur en France au camp de Frileuse. Je suis affecté au bataillon de Corée, le bataillon français de l'ONU, créé en 1950 par la France pour combattre en Corée, sous commandement américain.
Oui, on l'oublie un peu souvent, ça, parce qu'on parle de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, ensuite on va parler de l'Indochine, on va parler de l'Algérie, et on oublie complètement... La guerre de Corée. Or, on avait combien d'hommes en Corée?
2000 à 1100, je crois.
Ah oui, quand même. Hein. Alors?
Ce bataillon a été défait en Corée, comme on le sait, puis en Indochine. Et le bataillon arrive en Algérie en 1955, avec en fait la ferme intention de bouffer du bougnoul. Moi, j'arrive comme sergent.
Évidemment, Dixit, hein, évidemment, Gérard n'est pas d'accord avec cette formulation.
Oui,
hein.
Mais bon, j'ai mis des guillemets.
Eh oui.
J'arrive comme sergent. Je suis conduit à ma chambre, un lit, une chaise, et sur l'étagère au-dessus de mon lit, un crâne dépecé et verni. Autour de cette tête, un collier de dents humaines. Tout ça ramené en trophée d'une opération ancienne. C'est mon premier accueil, mon premier bizutage. Je ne dormirai pas sereinement cette nuit-là. Le lendemain, le groupe de sous-officiers m'annonce qu'au déjeuner, en entrée, nous aurons un plat d'oreille à la vinaigrette. J'ai été déjà informé de cette ignominie à mon arrivée au bataillon, et c'est trop pour moi. Je n'irai pas au mess ce midi-là. Avant l'armée, j'étais engagé depuis plusieurs années à la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. En arrivant ici, j'étais convaincu que mon rôle en Algérie serait le soutien au peuple algérien. Ma foi de chrétien m'engage dans une volonté de respect et d'amour. Ce que je vois dès les premières opérations n'est que violence et inhumanité. Je conduis une section de 12 gars de 20 ans comme moi. Je ne les connais pas encore, mais je vois horrifier leur méthode. Dans le village que nous devons contrôler, c'est tout de suite la brutalité. Faire sortir tout le monde des meshtas.
Les meshtas
sont les maisons construites en bouche de vache séchée. Elles ont pour particularité d'être très efficace contre la chaleur et le froid d'hiver.
D'accord.
Les enfants se sont réfugiés et agglutinés derrière les femmes. La peur se lit sur chaque visage. Je tente d'intervenir pour calmer ce groupe en allant saluer les femmes et les rassurer. Mais il faudra plus d'un sourire pour les convaincre. Pendant ce temps, mon équipe a déjà tout cassé à l'intérieur, sans même fouiller, alors que certains poussent au bout de leur arme de jeunes femmes. Dans une meshta, l'intention est claire. Je hurle, je m'oppose, mais la hiérarchie militaire n'en a que faire. Un sergent-chef de carrière crie plus fort que moi en disant « Ferme ta gueule, ou dans 5 minutes, tout ça, ça crame ici !» et en agitant son briquet. Notre mission officielle est de chercher des documents et des armes. Mais personne ne cherche. Je vais donc le faire moi-même, en m'assurant que rien n'est caché dans le grain répandu au sol, car les sacs ont été crevés. Je rassemble les vêtements pour les remettre dans les valises et les ranger sur les étagères. Rien de singulier dans tout ça. Le saccage était gratuit et inutile. Mais les gars de ma section ont vu. Le chef aussi. Il a rangé son briquet, mais n'oubliera pas de confier tout ça au commandant de compagnie dès ce soir. Moi, chaque soir à la ferme, je discute avec les gars de ma section. Nous parlons de nous, de nos métiers, de nos projets à la quille, de nos familles. Je tente de faire le rapprochement entre nos familles et celles que nous rencontrons dans le village. Je lance quelques mots. Humanité, justice. Ça conteste, ça grogne. Mais certains accrochent et argumentent. Encore quelques débats comme celui-là et nous parlerons de fraternité. Après un mois, les gars de ma section ont changé. Ce sont des copains maintenant. Quelques-uns sont comme moi fiancés. Et c'est pour nous un sujet très important. Monique partage mes idées et nous avons choisi de tout échanger par courrier afin de tenir face à ses horreurs. C'est grâce à elle que, malgré l'acharnement de la hiérarchie militaire, je suis resté debout. Nos fouilles de village sont maintenant clean. Petit à petit, ceux qui n'étaient pas convaincus restaient dehors. Puis, après, il suffisait d'un signe de tête ou d'un sourire et tout marchait. Le chef avait rangé son briquet, mais il n'en pensait pas moins. Peu de repos entre chaque opération en zone interdite. 2 jours, parfois 3. Le temps de soigner nos pieds et de sécher nos affaires. Nous partons au petit matin pour 4-5 jours, des fois plus. En passant le portail de la ferme, le commandant de compagnie me dit à chaque départ « Le chantre, n'oubliez pas les oreilles !» Le 18 décembre, départ. 3 heures de camion, le reste à pied. 20 kilomètres avec 20 ou 25 kilos sur le dos. Là, dès les premiers jours, les accrochages sont fréquents. Puis, une clairière et une meshta qui fume encore. Dès le premier jour, les accrochages sont fréquents. À l'intérieur de la meshta, un repas abandonné. Une fouille rapide nous permet de trouver un dossier de documents apparemment sensible. Le chef gueule. « Fiche ça, ils sont pas loin !» Ça grimpe. Le terrain est difficile. Un Noël nous permet de faire le plein d'eau. Mais quelques centaines de mètres plus loin, une brêle en décomposition est dans l'eau. Nos gourdes se vident. Nos bouches resteront sèches et pâteuses. Ils sont plus rapides que nous et nous ne les rattraperons pas. 23 décembre, 7e jour de crapahutage. On nous dit que c'est le dernier. Ce sera le pompon, la pire des journées. On est crotté, égratigné ou extropié de partout. Au niveau moral, c'est pire. Chaque soir, il faut réparer auprès des copains les décourageants, le cafard. Les gars sont persuadés que Noël sera sur le terrain à en chier encore. 7 jours que l'on est parti, sans que le courrier arrive. Ça, c'est insupportable. Les embuscades se poursuivent. Par contre, tous se souviennent de l'événement. Vers 16h, alors que notre groupe, 20 à 30 gars, était en éclaireur en tête du bataillon, nous nous étions en fond de vallée, en forêt. Soudain, un Piper, un petit avion d'observation, se balade en rond au-dessus de nous. Il nous a vus. Du moins, il a vu un petit groupe d'hommes en armes en plein milieu d'une zone interdite. Et nous, c'est un pin fumigène tout près de nous que nous avons vu jaillir. Au bruit des avions qui approchent, ça devient sérieux. Nous nous communiquons l'ordre donné. Plaquez-vous contre les arbres. Il est temps, l'enfer arrive. Nous sommes debout, accrochés à nos troncs d'arbres. Les éclairs sortent de là-haut. Au bout des mitrailleuses, des chasseurs, des tessites, ils sont deux à nous cracher dessus en piquant. Des balles de 12-7 par cycle de 3, une éclairante, une normale, une explosive. Ces dernières font en arriver au sol des trous de 40 cm. C'est le déluge, tout tombe, les feuilles, les branches, mais surtout ces balles à la vitesse d'un tir. Le bruit lui aussi s'ajoute. C'est effrayant. Impossible pour le radio de joindre les avions. Mais pendant tout ce temps, nous étions sous leur feu. Et là, nous avions vraiment peur. Pendant 4 à 5 minutes, ces deux chasseurs sont revenus en piqué sur nous. 4 fois chacun. Là, serrant notre arbre des deux bras, avec ces énormes trous tout autour de nous et le bruit des rafales, on fermait les yeux. On imaginait déjà les cris des blessés, les nôtres aussi, la déchirure de notre chair. Oui, on avait vraiment peur. Un temps qui n'en finit pas. Enfin, tout s'arrête. Les feuilles ne tombent plus. Le bruit s'est arrêté, les balles aussi. On est tous abrutis. Là-haut, les chasseurs tournent en rond au-dessus de nous. Ils battent des ailes, c'est leur signe pour dire au revoir. Chaque gradé consulte ses gars, ses copains. Tous soufflent pliés en deux. Incroyable, personne n'est blessé. Seuls des sacs à dos ont été transpercés. Des frayeurs, mais nous repartirons tous sur nos deux jambes. Après ce coup dur pour le moral, c'est enfin fini, on rentre. Les camions nous attendront sur une route carrossable. Encore quelques heures de marche et nous dormirons en forêt, proche de la route. Nous sommes loin de notre ferme. Dès le petit matin, rouler dans ces GMC est très fatigant. Nous arriverons un peu avant 10 heures, le 24. Ce soir, c'est Noël. D'abord le courrier. Monique ne m'a pas oublié. Plusieurs lettres m'attendent. Puis on m'informe que le commandant de compagnie veut me voir. Rien de grave pour cette fois. Il me rappelle mon accord pour animer le repas de Noël ce soir. Bien sûr, Noël c'est très important pour tout le monde. Mais ce soir, qui a l'esprit à faire la fête? C'est vrai, je m'étais engagé pour que cette soirée se fasse. Elle dépend aussi de moi. Comment égayer cette table pour un repas festif? Rien n'a été prévu. On devra faire confiance aux bouteilles pour l'ambiance. Nous sommes une petite centaine. Pas à dire, les repas sont de qualité. Je tente de faire participer quelques gars avec des chansons ou des blagues. Mais plouf, c'est un bide. Alors, entre deux plats, je me décide. Je suis connu pour mes chansons. Je commence par Mouloudji, La Butte Rouge, La Complainte de la Butte. J'espère que d'autres suivront, mais rien. Des sifflets. La danse des fourchettes. Rappelez-vous, 100 bonhommes qui tapent en cadence sur les tables avec les fourchettes. Ça fait du bruit. Ajoutez à ça mes copains qui lancent le chantre une chanson, le chantre une chanson. Bien sûr, la table d'à côté reprend. Puis ce sont toutes les tables. Je ne peux pas me dégonfler. Je me lève. je change de chanteur, d'auteur. René-Louis Laforgue, Félix Leclerc, Le Petit Bonheur, Moi mes souliers, Les Premières de Jacques Brel, Sur la place, Grand Jacques, Demain on se marie. Et puis j'en ai marre. Je m'assois, je n'ai même pas fini de manger. Ça crie, ça boit, ça pleure aussi. Et au bout d'un moment, les fourchaînes reprennent leur danse. Un gars de ma section qui connaît bien mon répertoire lance « Le déserteur, le déserteur !» Il ne peut en être question, elle est interdite depuis des années. Les fourchettes ne s'arrêtent plus, les cuillères s'y sont jointes. C'est un vacarme assourdissant. Avec toujours « le déserteur !» Moi, je suis assis, je baisse la tête dans mon assiette. Et c'est le commandant de compagnie, il s'est levé, demande le silence, les deux bras en l'air. Une fois le calme revenu, il lance « Le chantre !» Je me lève et il ajoute « On vous écoute !» C'est fou, que va-t-il m'arriver ? J'entends « Allez, allez !» Je me frotte le peu de cheveux qui me reste, j'avale ma salive et j'entonne « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. » Et je termine. Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Les cris et les applaudissements n'en finissent plus. Mais je ne suis pas fier. C'était un sacré pari. Chanter le déserteur dans un camp en Algérie en temps de guerre et sur commandement militaire. Que va-t-il se passer pour moi ? Dans les jours qui suivent, avec la réaction sympa de beaucoup de copains, je me suis mis à penser que c'était pour moi une jolie revanche. Ce sera en fait une bombe à retardement. Quelques jours plus tard, dans la cour de la ferme, beaucoup de sous-officiers sont en discussion avec le commandant de compagnie. À mon arrivée, tous les regards se portent sur moi. Visiblement, ils parlaient de moi. C'est le commandant de compagnie qui brise le silence. Vos collègues sont interrogatifs sur votre relation avec les gars de votre section. Ils reconnaissent vos qualités de commandement et votre implication sur le terrain, mais ils sont inquiets du changement d'attitude de l'équipe que vous commandez. Il ajoute « On vous avait donné 12 loups, vous en avez fait 12 moutons. » Le lendemain matin, je suis convoqué au bureau du colonel à Ain Abid, à 8 kilomètres. Dès mon arrivée, le colonel me reçoit et me dit « L'opinion du sergent Le Chantre ne doit pas être dévoilée. » Il me fait part de la décision qu'il avait prise. Il me mute à la deuxième compagnie et m'interdit de faire part de mes opinions. En ne tenant pas compte de cette interdiction, je m'exposerai à de graves ennuis, tels que le tribunal militaire, pour entrave au moral de la troupe. La deuxième compagnie est la pire, celle des interrogatoires et des tortures. On veut m'étouffer. En fait, la fin de mon temps en Algérie se fera au garage du bataillon et je ne retournerai jamais en opération. Je rentrerai chez moi le 23 décembre 1959.
Le témoignage de Gérard est peut-être un peu long, mais il est chargé d'émotions. Il est une très belle synthèse de ce que de nombreux appelés ont vécu. Et ces moments particulièrement forts, et la force, le courage de pouvoir chanter le déserteur, parce que chanter le déserteur aujourd'hui dans un café, ça n'importe, d'abord personne ne connaît, mais à l'époque c'était quelque chose de très émouvant, et en gros Gérard, tu ne savais pas ce que tu risquais, tu pouvais être aux arrêts. Cela dit, c'est une autre forme d'arrêt que d'être envoyé à la deuxième compagnie. Hein? Et alors, Il est, en plus, c'est intéressant parce que ce témoignage permet de faire le lien avec le livre. C'est-à-dire que, voyons ce qui nous intéresse dans une émission portant sur les livres, eh bien, c'est le, bah, évidemment, c'est de parler des bouquins. Alors, le livre, celui que vous avez publié en 2012, s'intitule « Guerre d'Algérie ». Guerre d'indépendance,
parole d'humanité.
C'est très important, oui. Alors, qui explique ce titre? C'est
que les guerres sont. Le bouquin explique finalement que les guerres sont des bêtises, à coup de témoignages, un peu comme ceux de Gérard. Et que parmi les horreurs, chaque geste d'humanité accompli n'est pas perdu, mais sauve un peu l'honneur de l'humanité et en nous, l'humanité en nous, justement. Si on a pu parler de la banalité du mal, pour tous les petits gestes d'humanité, on est peut-être en lieu de dire la banalité du bien.
Oui, tout à fait.
Oui, et dans ce bouquin, on trouve des témoignages, bien sûr, d'anciens combattants, d'anciens appelé en Algérie de notre association, mais on trouve des témoignages aussi de Moudjahidines, ceux qui ont combattu auprès du FLN, des témoignages aussi de...
Comment ? De femmes ?
Les supplétifs de la...
Les harkis ? Hein,
les supplétifs. Mmh. Des témoignages aussi de pieds noirs,
oui.
Qui ont des choses à dire aussi.
Oui. Hein.
Et ce bouquin est d'un contenu remarquable, quoi.
Ah bah, moi, je considère que c'est un très beau document d'histoire parce que vous montrez la vie quotidienne du conflit avec les hommes, les femmes qui souffrent, qui se battent. Certains, d'ailleurs, qui ne savent pas très bien pourquoi, ils le disent, d'ailleurs, dans leur témoignage.
Certains, On a été trompés.
Certains ont même pris le risque de la désertion, ce qui n'était pas facile. Hein. C'est facile quand on est tranquillement chez soi à dire, oh, tiens, ils auraient dû déserter. Mais quand on y était, c'était pas évident. Il y a même, Jean Delorme qui relate une rencontre avec Louis Lecoin. Louis Lecoin, c'est un des grands anarchistes qui est celui-ci. Louis Lecoin, d'ailleurs, insiste sur les risques que prennent ceux qui vont déserter. Parce que quand on déserte, on est obligé de quitter son pays, de plus avoir de contact avec sa famille, etc. C'est une immense souffrance. Et j'ai découvert aussi le témoignage d'un anarchiste, André Bernard, dans le livre, là, qui se présente comme non-violent. Donc, on a des témoignages, ça fourmille de témoignages. Il y a aussi des témoignages sur la place des femmes dans la lutte menée par le FLN. Alors vous avez cherché comment ces documents. Comment avez-vous trouvé tous ces témoignages?
Eh bien, c'est par notre relation avec l'Algérie et en particulier les gens qui sont, ouais. d'anciens moudjahidines qui ont combattu, la famille, parce que, ouais. Bon, ils sont comme nous, les anciens moudjahidines, ils vieillissent et ils disparaissent. Hein. Mais les enfants, les femmes, la famille connaît tout ça. Et nous avons réussi à être en lien avec eux. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est une fraternité.
Oui, c'est important, ça ressort vraiment très nettement des pages du livre. Et alors, la place de ces femmes-là, vous parlez de Louisette, qui a été la première à briser le silence.
Oui, une femme qui a été torturée par le sinistre général
Osares, voilà. Oui.
Son message a permis, dans les années 2000, à faire jaillir, effectivement, tout un tas de témoignages d'anciens d'Algérie. Et, bon, ça a été une période très,
Et je crois, oui, et je crois, alors il y a des historiennes comme Raphaël Branche qui d'ailleurs préface votre livre, et puis il y a aussi une journaliste, Florence Bauger, puis il y a un site, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce site, Histoire Coloniale, là ?
Oui, histoirecoloniale.net, et si vous tapez ça sur un moteur de recherche, vous forcez de tomber sur le site. Et c'est un site extrêmement intéressant, et récemment, justement, il y a Raphaël Branche et Florence Bauger qui se sont exprimés sur l'ampleur des viols lors de la guerre d'Algérie. Mmh. Et c'est franchement effrayant.
Oui.
Quand vous lirez ces témoignages, enfin ce qu'en rapportent les historiennes, c'était généralisé et
totalement, totalement accepté, totalement incité.
Enfin, il y avait
la hiérarchie. Oui.
Moi, j'ai été témoin des viols. Hein.
Ouais.
Mais malheureusement, mon autorité de sergent a été renversée.
D'accord.
Par les cris du sergent-chef qui, en fait, donnait sa bénédiction.
Oui, c'est ce que tu expliquais. Et puis alors, la torture, la violence. On cite à plusieurs reprises dans le livre le célèbre livre La Question, c'est assez épouvantable d'ailleurs. La Question, c'est un des livres que j'ai eu un mal fou à terminer tellement chaque page annonçait un monceau d'horreur. Est-ce qu'il y a quelques témoignages qu'on pourrait vraiment mettre en valeur, ou bien est-ce que René, toi, t'as pas connu de scènes de torture?
Moi, privilégié par le fait que je me suis trouvé dans l'intendance sans avoir rien fait pour m'y trouver. Mais il faut reconnaître que j'ai été complètement à l'abri de tout cela. Bon, quoi que j'ai lu récemment que des gens d'une unité d'intendance autre que la mienne se sont trouvés un jour plus ou moins mêlés aux villas où se passaient les tortures à Alger. Enfin, c'était assez curieux. Mais bon, moi, non, je n'ai jamais connu. C'est une ambiance complètement différente. L'intendance, c'est un service. Nous avons un camarade qui a écrit un livre qui s'appelle Jacques Unrep, qui est ancien appelé, membre de 4CG. Il a écrit un livre qui s'appelle Soldat peut-être, tortionnaire jamais. Et je me souviens que dans son livre, que j'ai lu entièrement, il explique que parmi tous les ennuis qu'il a eu, il s'est retrouvé dans un bagne en plein soleil en Algérie, des choses comme ça. Et parmi les ennuis, il s'est trouvé un mois affecté dans un régiment d'intendance. Il dit qu'il a découvert un autre univers. C'est vrai que de ce point de vue, j'ai été protégé.
Oui.
Bon, les ennuis que j'ai eus, c'est les ennuis avec la hiérarchie pour détention de journaux interdits, et j'ai perdu mon grade de sergent.
Alors, les journaux interdits, c'était quoi à l'époque?
C'était tous les journaux importants.
C'est-à-dire l'Observateur
L'Observateur, l'Express.
Témoignage chrétien.
Témoignage chrétien et d'autres. Voilà. Donc. C'était absolument...
D'accord. Alors, le temps passe vite entre gens de bonne compagnie, donc c'est normal. Donc, on va peut-être réduire. Je rappelle, donc, 25 600 militaires français sont morts, 65 000 blessés, 600 disparus. Bon, on a la guerre des grottes, qui est des prisonniers, des Français prisonniers du FLN auraient été gazés par l'armée française.
Oui, ça, c'est les travaux d'un jeune historien, Christophe Lafaille.
Oui, ça, c'est très intéressant. Et 250 000 Algériens ont été tués, dont plus de 140 000 combattants ou membres du FLN. Donc c'est une grosse... c'est un conflit, c'est pas un petit conflit, c'est un conflit sans compter les enfants.
10 millions de personnes déplacées dans les camps.
Voilà, 10 millions déplacés dans les camps. On a de très nombreux témoignages, très nombreux livres, et puis vraiment, ce livre raconte bien et des deux côtés, c'est pas uniquement les appelés, mais c'est les appelés, les anciens, des anciens du FLN, des hommes, des gens qui étaient des enfants à l'époque. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et même, ça montre, et même des pieds noirs qui apportent leur témoignage. Alors, je suis un peu désolé de vous pousser comme ça, mais et qu'est-ce que vous avez comme projet aujourd'hui, là, en deux minutes ?
Eh bien, nous continuons à faire à donner des témoignages dans les lycées, dans les collèges, et chaque fois, eh bien, nous intervenons avec, si possible, des moudjahidines, des femmes aussi, parce que les femmes ont eu une place importante dans la guerre d'Algérie, notamment en France, et puis je l'ai dit tout à l'heure, des pieds noirs.
Ouais. Hein.
Nous essayons chaque fois de ne pas être seuls. Hein.
Alors, on rappelle le titre du livre, « Guerre d'Algérie, guerre d'indépendance, parole d'humanité », publié aux éditions de l'Harmattan en 2012. Comment peut-on obtenir ce livre auprès de l'éditeur, mais aussi auprès de votre association ? Et alors, l'association, pour la contacter, on a un site internet ?
Voilà, il y a un site internet, www.4acg.org.
Voilà, www.4acg.org. Écoutez, merci pour ce moment. Je trouvais que c'était important, moment d'histoire, témoignage émouvant. On va peut-être passer qu'une seule chanson, « La colombe ». De Jacques Brel, qui est une chanson qui, elle aussi, a été interdite à cette époque.
Est-ce que je peux rajouter un mot
alors,
dernier ?
Alors, juste, vas-y.
Moi, je voudrais insister sur le fait que notre mission ne suffira pas. Il faut que chacun de nous y ajoute une espérance. Hein. Regarder les Algériens différemment, c'est quelque chose si important. Comme je l'ai fait avec les copains de ma section, hein, en discutant, eh bien, on arrive à faire changer les mentalités. Et chacun de nous peut, en accueillant les Algériens, faire changer les choses autour de nous.
Merci Gérard, une vraie parole de militant, toujours porteur de projets. De perspective. La fraternité entre les peuples, la dignité reconnue. La colombe de Jacques Brel.
Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
Nous remercions encore une fois nos amis de 4ACG pour ce beau témoignage dans cette semaine consacrée à l'armée. Eh oui, à l'antimilitarisme, à la guerre et à son cortège de destruction. On rappelle, Frédéric, le film de ce soir. Et puis ensuite, Frédéric, tu vas nous présenter un livre, un roman. À toi.
Oui, je vous rappelle en effet que ce soir, un film qui est tout à fait en lien et dans la thématique que vient de développer, au 145 rue Amoreau, Libéry Publico, Choisir à 20 ans, réalisé par Willy Herman, écrit par Eve Martin, Algérie Suisse 2017, 100 à 300 jeunes Français refusèrent de participer à la guerre d'Algérie et certains se réfugièrent en Suisse. Ce film aborde leur parcours. Alors ça a lieu à 19h, librairie Publico, 145 rue Amelot. Alors là maintenant, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup intéressé, La République des Faibles. 1er janvier 1898, le premier jour de l'année commence très mal. Pourquoi la République des Faibles en titre? Vous le comprendrez en lisant, vous le découvrirez en lisant ce polar aux accents de littérature prolétarienne. Il est difficile de parler d'un livre et surtout d'un polar sans livrer son contenu qui risque de dévoiler la clé de l'enquête, bien sûr. Disons pour ce roman, les clés de l'enquête. Il y a beaucoup de morts dans ce livre. Des infanticides, un horrible pédophile, des policiers douteux, violents dans leurs interrogatoires, politisés et antisémites. Amatrice et amateur de rebondissements, d'entrecroisements, d'histoires à tiroir, vous serez ravis. Des chapitres courts, cela donne du rythme et malgré tout, se tient, se relie et on ne se perd nullement dans le fil du roman. Ce roman nous replonge dans cette fin du XIXe siècle. L'affaire Defrus, Esterhazy, Zola, la Ligue et son cortège d'antisémitisme. Le tout sur fond de misère sociale pour certaines et certains protagonistes. Des références sociales et politiques par touche nous replongent bien dans l'époque. On sent que l'auteur a étudié et connaît cette période de l'histoire. Les affaires se passent à Lyon, ça change de Paris, c'est bien. N'étant pas un habitué de polar, je l'ai choisi grâce à sa quatrième de couve qui laissait transparaître un contenu historico-social. La quatrième de couve n'est pas trompeuse, on trouve bien cela dans le livre. J'espère vous avoir donné l'envie de lire ce polar prolétarien qui est un style assez rare, il faut le souligner. Alors il s'agit de La République des Faibles, de Gwenaël Bulteau, aux éditions 10-18, format poche, 328 pages, à 8,50 €. Je repasse maintenant le micro à Francis. Oui, voilà.
Bien, merci. Alors, dernier livre, je crois, que nous allons pouvoir présenter aujourd'hui. La question de la justice. Eh oui. Le titre, d'ailleurs, c'est un petit livre qui a été édité aux éditions Le Bas du Pavé en 2022, « Justice », avec un point d'exclamation. Oui, c'est un cri que lance l'auteur, Frédéric Borgella, un officier d'artillerie de l'armée de Paris, celle de la Commune de Paris. Alors justice pour qui? Justice pour quoi? Pour les morts de la Commune. Et il y a du Jules Vallès dans le ton et dans le verbe. Il y a de la Louise Michel dans le cri. Et les éditions du Bas du Pavé ont retrouvé, grâce à notre ami Pascal Baumer de l'association des Amis et des Amis de la Commune de Paris, ce petit texte publié une première fois à Londres. Et Sylvie Bréban, qui est coprésidente de l'association des Amis de la Commune, en réalise une préface bien menée. On y reconnaît la journaliste de conviction. Elle souligne que les mots employés par Borgella sont excessif, mais ils sont à la hauteur de la douleur collective. Une souffrance dont, à ses yeux, un homme, plus que tous les autres, est responsable. Et ce coupable, c'est Adolphe Thiers. Et ce criminel, ce meurtrier, n'a jamais été jugé, malgré l'appel de justice lancé par ses victimes. Elle relève aussi, Sylvie Bréban, que Borgella, aide de camp de Louis Rossel, veut réhabiliter celui qu'il avait côtoyé aux pires heures de la répression, celui dont le gouvernement de Thiers voulait faire un exemple en le condamnant à mort et en l'exécutant en quelques semaines. Et Borgella insiste sur la violence de la répression, car en fait, tout son texte porte sur la semaine sanglante, celle de fin mai 1871. Et il écrit plutôt, « Mais chez aucun peuple, en aucun temps, cette raison du plus fort n'a eu les proportions immenses que lui ont donné et donnent encore les Versaillais à Paris. » La bataille des chiffres bat son plein déjà dans ce texte et la municipalité de Paris parle de 18 000 morts. Mais c'est sans compter, dit Borgella, sur les hommes qui sont tombés en combattant derrière les barricades. C'est aussi sans compter ces femmes qui seront elles aussi violées. On a l'impression que c'est un des grands standards, malheureusement, de toutes les violences, comme ça, le viol des femmes, et puis ces enfants qui sont fusillés au coin des rues. Et un des passages les plus durs de l'ouvrage, tenez, une lettre d'un chef de bataillon versaillais. Quand nous en avions un tas de ces voyous, c'est-à-dire des Parisiens, des fédérés, que l'on trouvait dans les caves, les greniers, on creusait pour eux un énorme trou de 5 mètres de diamètre et d'1,60 m de profondeur. Nos gendarmes alors les poussaient à coups de crosse dans le trou, où on en empilait tant qu'ils pouvaient tenir, et puis à la fin, en reculant de 2 pas, ces mêmes gendarmes faisaient feu à volonté dans le tas, et tant que ça grouillait, on tirait. Cet extrait fait songer au livre de Lisa Garret, Histoire de la Commune de 1871. Un autre fait intéressant, odieux évidemment, mais intéressant parce que c'est rarement rapporté à cette époque, c'est, car on jetait un voile pudique sur ces agissements, c'est le viol d'une jeune fille. Et oui, je cite, « Un des soldats la viole avec une rage féroce, tandis que ses camarades l'excitent par 1000 gestes inénarrables. La scène finit par un coup de sabre baïonnette qui mise à nu les intestins de la victime. À fois avoir le cœur accroché, mais cette semaine sanglante a été absolument odieuse et c'est bien qu'on ait ce type de description qui dit la vérité. N'oublions pas les exécutions isolées, non comptabilisées dans l'horreur et la violence incitée, cautionnées par les officiers. Combien de scènes pareilles nous faudrait-il décrire, écrit Borgella, encore pour donner seulement une faible idée des massacres de mai. Et la référence au général Galifet, particulièrement odieux pendant cette répression, fait un sinistre écho à sa nomination comme ministre de la Défense d'un gouvernement dit de gauche sous la Troisième République. En fait, le texte devient puissant dans la dénonciation d'Adolphe Thiers. Nous savons qu'il a refusé toute discussion avec la Commune, préférant évacuer Paris et préférant le massacre, soutenu en cela par une bonne partie de la classe politique et des intellectuels, dont, il faut bien le dire, un certain Émile Zola. Je renvoie pour les écrivains, justement à un livre qui s'appelle « Les écrivains contre la Commune » de notre ami Paul Letzky, aux éditions de la Découverte. L'auteur, Borgella, devient pamphlétiste dans sa description d'Adolphe Thiers, que l'on surnommait à l'époque, le surnom est bien oublié aujourd'hui, Foutriquet. Et il le qualifiait de ce bout d'homme large et court. Il dénonce les manœuvres de ce triste sire pour accéder au pouvoir, le massacre accompli. Et soulignons que, encore récemment, les plus hautes autorités de la République défendent ce personnage et estiment que la République, en 1871, était à Versailles. Bien évidemment, nous considérons que la République, elle était avec le peuple, elle était donc à Paris, et on a essayé de la tuer, mais selon la très belle chanson de Jean-Roger Cossimon, la Commune n'est pas morte. Évidemment, la Commune n'est pas morte. Alors, je rappelle le titre du livre, Justice, point d'exclamation, aux éditions Le Bas du Pavé, en 2022, donc c'est tout récent, et c'est un dénommé Frédéric Borgella. Et je pense que nous pourrions terminer cette présentation avec La Semaine sanglante, écrite par Jean-Baptiste Clément.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes. Des veuves et des orphelins, parisiens de la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain, les gens de la folie refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes. Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin République, de la justice et du travail. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Et oui, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront, et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention, votre fidélité. Merci à nos amis de l'association 4ACG. Dans 15 jours, le 23 novembre, ce sera une émission consacrée, entre autres, aux communardes, avec comme invité Isabelle Abivène, qui réalisa les portraits pastels de dizaines de communardes, réunis dans un ouvrage publié aux éditions Dithmar. Et l'émission, la nôtre, se prolongera avec celle de nos amis Femmes Libres, l'émission, j'allais dire, l'émission d'à côté, c'est-à-dire celle qui prend la suite. D'ici là, bonne lecture. L'équipe d'Au fil des pages vous souhaite évidemment ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré, et à bientôt et au plaisir de partager. Frédéric, Léo Ferré.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Crucificado, but I know how I feel. Crucificado, when I think of a hate, I'm finished with love. I wonder, resurrection from the dead.